Voilà, nous abordons donc un nouveau sujet dans cette série des valeurs et des vertus chrétiennes. Le mois dernier, nous avons parlé de la justice et je propose que nous essayions d'avoir quelques réflexions concernant la générosité et la façon dont on l'aborde dans une perspective chrétienne. Je vous invite à lire deux passages. Le premier dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, les versets 15 à 17. Hébreux 13, versets 15 à 17. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et puis, dans un deuxième texte, se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. C'est un passage où il invite les chrétiens de Corinthe à participer à un acte de solidarité, une collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Et donc, d'abord, un verset au chapitre 8, le verset 9, où il rappelle un fondement important des perspectives chrétiennes quand on aborde cette question, une telle question. « Vous connaissez, dit l'apôtre Paul, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et il continue, chapitre 9, verset 6, par une exhortation concrète à la générosité. « En fait, dit-il, celui qui sème peu moissonnera peu. » Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne donc comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Il prie pour vous avec tendresse à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Oui, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Jusqu'ici donc notre lecture. Parler de la générosité, c'est parler de la vertu du don. La vertu de générosité, comme celle de la justice que nous avons vue le mois dernier, a des rapports avec autrui, mais elle se situe sur un registre différent. Et je voudrais peut-être d'abord commencer par quelques mots de comparaison entre la justice et la générosité. Cela fait ressortir un petit peu les différences. Dans son petit traité des grandes vertus, c'est un ouvrage que j'ai cité plusieurs fois déjà, André Comte Sponville, donc un philosophe qui a une certaine formation, un certain arrière-plan chrétien, mais qui est athée, mais qui dit des choses intéressantes. Il compare donc ces deux vertus de générosité et de justice. Et sa comparaison est très éclairante. Il souligne d'abord que l'orientation des deux vertus n'est pas la même. Ce que vise la justice, c'est d'attribuer à chacun le sien, à chacun ce qui lui est dû. La générosité, elle, vise d'offrir à l'autre ce qui n'est pas sien, ce qui est nôtre et ce qui lui manque. Orientation différente, donc. L'importance des deux vertus ne semble pas non plus à première vue se situer au même niveau. la justice semble beaucoup plus fondamentale, plus nécessaire, plus basique. La générosité, comparée à la justice, ressemble un petit peu à un luxe, à un supplément d'âme. « Il faut être juste avant d'être généreux », disait Champfort, « comme on a des chemises avant d'avoir des dentelles ». C'est assez bien dit, mais ça dit bien le côté beaucoup plus basique de la justice. Il faut d'abord la justice, la générosité vient en second. Ça dit ce côté essentiel de la justice, elle est un droit pour tous, elle est le socle sur lequel on ajoute le reste. Il reste à situer la valeur propre de la générosité par rapport à ce socle. Le profil des deux vertus n'est pas non plus le même. La générosité, souligne Comte Sponville, est plus subjective, plus singulière, plus affective, plus spontanée. La justice, elle, garde quelque chose d'objectif, de plus universel, d'intellectuel, de réfléchi. On peut faire une déclaration des droits de l'homme qui s'impose à tous, mais on ne peut pas imposer de la même manière la générosité par un texte. La générosité est une vertu plus personnelle qui doit jaillir du cœur, qui doit jaillir d'une libre décision. Voilà pour une comparaison qui me semble assez intéressante parce que ça situe quand même déjà un petit peu la place de la générosité. Maintenant, quelques considérations générales sur ce qu'est la générosité. Comment, oui, situer la générosité, quelle est sa particularité? Ce n'est pas si simple que de bien situer la place de la générosité. Et d'abord, un premier point qu'on pourrait réfléchir, c'est le lien entre générosité et amour. Le lien entre générosité et amour. Comment situer la générosité par rapport à l'amour? Alors on a le sentiment d'un lien assez étroit. La générosité semble être l'une des expressions naturelles de l'amour. Aimer, c'est prendre plaisir à donner, à déverser sur l'autre toutes sortes de bienfaits. Là où il y a amour, il y aura, en règle générale, générosité. Les deux attitudes donc se rejoignent en leur pointe. Mais une fois qu'on a dit cela, on peut aussi les distinguer. Parce que, en fait, on peut être généreux sans aimer. On peut être généreux sans aimer. Certaines personnes sont généreuses envers les pauvres parce qu'elles ne supportent pas l'injustice. Parce qu'elles ne supportent pas de se voir elles-mêmes comme ayant tout alors que d'autres n'ont rien. Et là, ce n'est pas l'amour qui est en cause, c'est un sentiment de le désir de justice, par exemple. Ils n'aiment pas spécialement les personnes envers qui ils sont généreux, ce sont d'autres perspectives, d'autres motivations qui gouvernent leur générosité. On peut donc être généreux pour une cause aussi dont on reconnaît l'utilité. Hein, si on sait que telle action est bonne, ben on sera généreux pour cette cause. La générosité est donc autre chose que l'amour, même si elle appartient aussi aux manifestations de l'amour. Alors certains même se sont demandé, alors là ça va un peu plus loin, si la générosité n'était pas justement de donner sans aimer. Est-ce que la vraie générosité, ce n'est pas de donner sans aimer? Alors cette pensée, elle surprend un petit peu, mais elle se défend en partie. Par exemple, est-ce qu'une mère se sent généreuse de nourrir ses enfants? On ne se sent pas spécialement généreux quand on est parent de faire du bien à ses enfants. On estime que ça fait juste partie de l'ordre normal des choses, ça fait partie de l'amour. Et donc c'est ce qui amène certains à dire que la générosité, elle se situe dans un autre niveau que là où est l'amour. C'est juste normal de donner. Aimer ses propres enfants, ce n'est pas être spécialement généreux. Se soucier des enfants des autres, des enfants moins favorisés que les nôtres, là, oui, beaucoup plus nettement intervient la générosité. Vous voyez, c'est ce qu'amène certains à dire que la générosité intervient là où il n'y a pas d'amour. C'est agir comme si on aimait, mais dans une situation où on n'est pas déjà porté par l'amour. Alors, en prolongeant cette ligne, certains vont même jusqu'à un peu banaliser la générosité qui a cours chez ceux qui s'aiment. Et certains disent, mais finalement, tout le monde est capable de générosité quand il aime, quand on est porté vers l'autre par la joie, la plénitude qu'apporte l'amour. Et certains disent, ben, la générosité dans l'amour n'est pas une vertu, dans le sens d'un comportement qu'on choisit parce qu'on doit le faire ou parce que c'est bien. C'est juste une expression du lien qui est déjà présent, qui anime et qui fait du bien. Alors que dire de cela? C'est un peu un débat théorique, mais quand même c'est intéressant d'y réfléchir. Que dire de cela? Il me semble que la remarque est juste de dire que lorsque l'amour est présent et lorsque l'amour est vivant, la générosité n'intervient pas comme une vertu. Elle n'intervient pas comme une sorte d'obligation morale qu'on doit se donner. C'est vrai. Mais il me semble que ça traduit le fait que l'amour contient déjà en lui-même, pour une part, toutes les vertus. Je crois que c'est ça, me semble-t-il, que ça veut dire. Ça montre que l'amour contient déjà en lui-même toutes les vertus. Si on était parfait dans l'amour, en fait, on serait parfait dans toutes les vertus. Si on était parfait dans l'amour, on serait parfait dans la bonté, dans la bienveillance, dans la vérité, parce que l'amour contient toutes ces choses-là. Et c'est pour cela que la générosité, elle est déjà contenue dans l'amour. Le don fait partie de l'amour, au point qu'il peut sembler que là où il y a don, où il y a amour, on n'a plus besoin de souligner la générosité. C'est qu'elle est déjà incluse dans ce qui fait l'amour. Par contre, il faut souligner que là où s'il n'y a pas générosité, mais qu'il y a amour, l'amour va commencer à s'affaiblir, à s'étioler. L'amour, pour exister, a besoin de s'exprimer par le don. Et on peut dire aussi que la générosité a sa place dans l'amour en tant que supplément d'âme, en tant que plus par rapport auquel on va exprimer encore et encore son amour. La générosité intervient donc comme un langage de l'amour, comme un langage des dépassements auxquels l'amour peut parfois conduire. Donc il faut distinguer, on peut distinguer amour et générosité. La générosité peut exister sans amour et se manifester encore plus fort là où l'amour n'est pas là, naturellement, mais on ne doit pas les séparer. L'amour contient la générosité, l'amour s'en nourrit, l'amour s'y renouvelle. Voilà pour le premier point sur la question de la générosité et de l'amour. Ce qui nous amène à la deuxième question, c'est de dire, mais qu'est-ce qui fait le propre de la générosité? Qu'est-ce qui fait le propre de la générosité? Ce n'est pas l'amour, mais le propre de la générosité, c'est le choix du don et le choix d'autre. Ce qui fait le propre de la générosité, c'est le choix du don, le choix de l'autre. La générosité ouvre à l'autre, c'est la vertu du don. C'est le refus de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Parler de générosité, c'est vraiment parler d'ouverture à l'autre, le contraire de l'égoïsme. Mais la générosité, c'est aussi, deuxièmement, une affaire de liberté. Il n'y a pas de générosité s'il n'y a pas de liberté, s'il n'y a pas de choix. C'est pour ça que j'ai dit que la générosité, c'est le choix du don, le choix de l'autre. Payer ses impôts, c'est donner, et parfois pour certains, donner beaucoup. Mais c'est une obligation. On ne parle pas de générosité quand on paye ses impôts. C'est quelque chose qu'on doit faire. Pour qu'il y ait générosité, il faut qu'il y ait une liberté mise en œuvre. Et c'est pour ça qu'est associée toujours cette idée d'une note personnelle, un peu subjective, lorsqu'on parle de générosité. C'est une qualité qui doit venir du cœur, qui doit exprimer la personne. La générosité est une liberté. Mais une liberté vers le don et pour le don. Et c'est l'idée de gratuité qui ressort ici. Et ça nous rappelle que si on a d'autres objectifs que le fait de simplement donner, on n'est pas dans la générosité. quelqu'un qui donne dans le but de défiscaliser n'est pas tout à fait quelqu'un de généreux. Hein, il faut qu'il y ait vraiment l'orientation du don. Une certaine idée de la gratuité. Le choix de l'autre, donc, le choix du don. C'est comme ça qu'on peut, me semble-t-il, définir la spécificité de la générosité. Après ces premières remarques, deuxième grande considération, comment fonder la valeur de ce choix du don, de ce choix de l'autre. Alors là, ici, beaucoup va dépendre d'où on part et de quelles sont quelle est notre optique générale des choses de la vie. Ceux qui réfléchissent uniquement à partir de l'homme et sans référence à Dieu doivent trouver dans l'homme la raison et les mobiles et la motivation de la générosité. Qu'est-ce qui fonde les orientations d'une vie lorsque on exclut Dieu de tout horizon? La seule clé est que chaque individu doit réaliser son être le plus possible ou du mieux possible. Et quand on est dans cette optique de dire, oui, chaque être, parce que c'est ça ce que nous sommes, c'est ça ce qui fonde notre être quand on est simplement, on se pose soi-même dans le monde, chacun doit réaliser son être du mieux possible. Et la question, c'est comment est-ce qu'on justifie dans ce cas-là la préférence pour l'ouverture à l'autre par rapport à une recherche égoïste de son propre intérêt. Ce qui est donné comme motivation dans ce cas-là, c'est de dire que la réalisation la plus haute d'une vie n'est pas forcément dans le plus grand confort personnel, n'est pas forcément dans la plus longue durée. Ce qui compte, c'est d'avoir la vie la plus libre, la vie la plus vraie. Il ne s'agit pas de vivre toujours, puisqu'on ne peut le faire, mais de vivre bien. Et comment le faire sans courage, sans générosité? C'est ainsi que l'on fonde finalement la générosité dans une perspective simplement humaine, personnelle, le choix de l'ouverture à l'autre, le choix du don, manifeste une plus grande liberté, manifeste une forme plus élevée de liberté que l'égoïsme centré sur soi. Et c'est donc au nom de cette liberté plus belle, plus grande, que l'on invite à la générosité. Le fondement donc, c'est la liberté humaine et de dire elle sera plus riche, elle sera plus belle quand elle est ouverte sur autrui. Ceci dit, c'est une question qui est définie par ceux qui le pensent ainsi. Si quelqu'un décidait que la liberté est plus belle et plus riche quand on s'occupe simplement de soi-même, eh bien la générosité n'aurait plus de fondement. Voilà pour la façon dont on réfléchit à la générosité d'un point de vue simplement humain sans Dieu. Ce n'est pas forcément très facile de la fonder. La perspective biblique est différente. Qu'est-ce qui fonde la générosité dans la perspective biblique? C'est que la générosité est aux sources même de notre être, aux sources même de notre existence. Ce n'est pas une question de mieux-être de notre liberté, mais dans la perspective biblique, la générosité est aux sources même de notre existence. Dans la vision du monde créé par Dieu, tout ce qui existe a reçu l'être de la part du Créateur et ne cesse de recevoir l'être et la vie de la part du Créateur. En lui, dit l'apôtre Paul, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est une source de reconnaissance et c'est une source d'émerveillement. Apocalypse 4, verset 11, une louange. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. On reconnaît que tout nous vient de Dieu. Et pourquoi Dieu a-t-il créé le monde? Et pourquoi Dieu a-t-il donné l'être? Quel est le fondement ultime de notre existence? Est-ce que Dieu avait besoin d'un vis-à-vis? Et est-ce pour cela qu'il nous a donné l'être? Le Dieu trinitaire est déjà relation en lui-même. Il est plénitude de relation. Il n'a pas besoin d'un autre vis-à-vis. Il se suffit, il vit quelque chose de fort, d'immense, relationnellement. Lui manquait-il quelque chose pour qu'il nous crée, pour qu'il y ait quelque chose de plus ? Mais il possède la vie, l'être en surabondance, dans une richesse que nous n'imaginons même pas. Aucun manque. Pourquoi la création ailleurs ? La seule raison, si Dieu possède tout en plénitude, la seule raison, c'est la générosité. C'est la générosité. La création du monde est une libre décision de don, une libre décision pour autrui, de la part de Dieu. Dieu qui possède tout a voulu partager avec d'autres, et il donnerait tout. Il a voulu partager quelque chose de la richesse qui est la sienne. C'est la générosité à l'état pur, la générosité dans toute sa gratuité qui devient vraiment créatrice. Et en tant que chrétiens, nous savons que nous n'existons que par une générosité inouïe, la libre générosité de notre Créateur. Nous sommes là parce que Dieu a fait le choix du don, a fait un choix vers nous. Nous sommes d'emblée définis par la générosité. Nous sommes créés aussi en image de Dieu, c'est-à-dire faits pour le vis-à-vis avec Dieu. Nous ne nous réaliserons donc que dans l'ouverture, jamais dans le renfermement égoïste. Nous avons été faits pour la relation sur la base de la générosité de Dieu. La générosité de Dieu fonde donc notre existence. Mais elle est aussi la marque de fabrique du Seigneur. Quand Dieu crée, il ordonne non pas un petit monde de chiches et mégroulets, mais il ordonne le foisonnement. Il veut, il choisit la diversité, il choisit la richesse. Le cadre que nous avons dans le monde qui nous est donné n'est pas simplement un cadre fonctionnel qui permet de vivre, mais c'est un cadre magnifique, ouvert, riche, beau, qui émerveille. Dieu ne s'est pas contenté, Dieu ne se contente pas du nécessaire, il aime donner avec surabondance. Et notre vie dans ce monde le manifeste. Et cette générosité se maintient encore, même alors que l'humanité a choisi l'égoïsme et choisi souvent le refus de Dieu, l'autonomie par rapport à son Créateur. Même rejeté par la plupart des hommes, Dieu continue à faire le choix de la générosité. Dieu continue à faire le choix du don, le choix des autres. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. L'apôtre Paul dit même, il a dit ça à des gens qui vivaient sans connaître vraiment le Seigneur, Dieu continue de se rendre témoignage à lui-même par ses bienfaits, en vous donnant la pluie, les saisons fertiles et en remplissant vos cœurs de joie. Ça, des gens qui ne le connaissent pas. La générosité reste la signature de Dieu, même lorsqu'il est bafoué, même lorsqu'il est rejeté, alors même que souvent on utilise cette générosité pour s'affirmer sans Dieu et pour mieux l'oublier. Le fondement non pour nous, c'est-à-dire tout ce que nous sommes, nous le devons à la générosité de Dieu. Et c'est pour cela qu'elle est vraiment pour nous une valeur fondatrice. La générosité, finalement, n'est pas un à côté, elle n'est pas la dentelle, hein. Vous savez l'image tout à l'heure, il disait la justice c'est le vêtement et la générosité c'est la petite dentelle qui va avec le vêtement. Si on y réfléchit, la générosité n'est pas juste la dentelle sur le vêtement de ce qui fait notre vie, c'est l'étoffe même du vêtement. Notre vie même est le fruit, la manifestation de la générosité de Dieu. Et c'est pour ça que la générosité pour nous en tant que chrétiens, elle est écrite dans ce que nous sommes. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Et cela est vrai de la création, c'est vrai aussi du salut, c'est vrai de tout. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Voilà le fondement très, très fort. Et on voit qu'il y a une base là, très, très appuyée hein, de la générosité dans la perspective biblique, dans la perspective du Dieu créateur, du Dieu sauveur, du Dieu bienfaiteur. Maintenant, j'aimerais avoir quelques développements sur la générosité comme valeur. Comment est-ce que la Bible nous invite à la générosité? Quelques considérations autour de ces questions-là. Comment est-ce que la Bible nous invite à la générosité? Et d'abord, j'aimerais aborder un premier point qui est le fait qu'il y a dans la Bible un commandement de la générosité. Dans le cadre du peuple de Dieu, la générosité est institutionnalisée. Dans la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël, il y avait toutes sortes de règles en place qui concernaient les offrandes et les dîmes. Un Israélite était tenu de prélever le dixième de toutes ses récoltes, de tout son bétail, de tout ce qu'il possédait, et de les apporter au sanctuaire. Et cet argent, il servait au service du culte, au service de Dieu, mais il servait aussi au service des prochains les plus défavorisés, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Une année sur trois, semble-t-il, l'offrande avait ce caractère plus spécial. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il s'agit encore de générosité lorsqu'on institue le don? Est-ce que la générosité ne doit pas être le choix, le libre choix du Dieu, du don? N'est-elle pas de l'ordre de la liberté? Comment est-il possible de dire il y a générosité institutionnalisée? Est-ce qu'on parle encore de générosité dans ce cadre-là? J'aimerais relever deux choses à ce propos. D'abord, oui, ce fait de l'institution du don, et même d'une proportion chiffrée, la dîme, c'est-à-dire 10%. Idéalement, on pourrait imaginer que ce ne soit pas nécessaire de dire il faut donner un certain pourcentage. Idéalement, on pourrait imaginer que, conscient de tout ce que nous avons reçu, que conscient de tout ce que Dieu nous donne constamment, conscient de toutes les solidarités humaines nécessaires, ben finalement la libre générosité s'épanouisse et permette de faire face à toute chose, à tous les besoins. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'idéalement les choses se passent comme cela. Mais il faut aussi dire que nous ne sommes pas dans cette situation idéale. Et il faut savoir que l'égoïsme est souvent là et souvent bien fort et parfois même le plus fort. Nous cherchons assez vite, assez facilement, à d'abord sécuriser notre intérêt, notre sécurité. Alors oui, nous cultivons les bons sentiments de générosité, mais la générosité concrète, il faut bien le reconnaître, qu'elle n'est pas toujours à la hauteur des bons sentiments par lesquels parfois on se console à bon marché. Il y a des gens qui sont très généreux dans leurs bons sentiments, mais on aimerait bien voir la suite, ça arrive. Et il arrive qu'on se console un petit peu par ces bons sentiments que l'on ne cesse d'affirmer. Alors je vais vous lire quelques lignes d'André Comte-Sponville là-dessus, qui invite un regard assez lucide sur la générosité et sur l'égoïsme. Et c'est d'autant plus intéressant, voilà, il est pas croyant, si vous voulez, hein. Un regard assez lucide, c'est pas un pasteur qui vous parle là, hein. Pas du tout. Voilà ce qu'il dit. Alors il parle de la générosité en argent et il dit « Au moins la générosité en argent, elle a un avantage, c'est qu'elle est quantifiable. » Et qu'est-ce qu'il il pose des questions. « Quel pourcentage de vos revenus familiaux consacrez-vous à des dépenses qu'on puisse appeler de générosité ? Autrement dit, à un autre bonheur que le vôtre ou celui de vos intimes ?» Chacun répondra pour son compte. « Mon idée est que nous serons presque tous en dessous des 10%. Et même bien souvent, faites le calcul, en dessous de 1%. J'entends bien que l'argent n'est pas tout, qu'il y a aussi donc la générosité en acte dans le temps qu'on donne. Mais par quel miracle serions-nous davantage généreux dans les domaines non financiers ou non quantifiables? Pourquoi aurions-nous un cœur plus ouvert que le porte-monnaie? Bref, la générosité, dit-il, n'est une vertu si grande et si vantée que parce qu'elle est très faible en chacun et parce que l'égoïsme est le plus fort, toujours. que parce que la générosité ne brille le plus souvent que par son absence. Ok, c'est bien de dire ça quand même, hein. C'est un peu raide, mais il y a quand même une bonne part de vérité là-dedans. C'est sévère, mais c'est probablement lucide. Et il me semble que le commandement de la générosité, les mesures concrètes mises en œuvre dans la loi de Dieu, sont là comme une aide justement face à ces pesanteurs de l'égoïsme qui sont même bien présentes en nous. Et si Dieu a institué ses lois, ses offrandes, ses règles, ses dîmes, etc., c'est pour nous aider à aller plus loin que nos cœurs qui sont souvent si facilement tournés vers nous-mêmes. Et donc c'est une première chose qu'on peut souligner, pourquoi il y a un commandement de la générosité et même un pourcentage qui est proposé, c'est justement pour être une aide face aux pesanteurs de l'égoïsme et d'un peu d'égocentrisme qui peut nous caractériser. Mais deuxièmement, ce qu'il faut souligner, c'est que le commandement de la générosité dans l'Ancien Testament veille à préserver toujours une motivation de don volontaire, une motivation de reconnaissance. On ne donne pas simplement parce qu'il faut donner, même si c'est écrit dans la loi. Mais on donne, et c'est le but de la loi, que d'inviter à donner parce qu'on a conscience qu'on a beaucoup reçu, parce qu'on le reconnaît et avec gratitude. Autrement dit, à l'intérieur du commandement, du cadre donné par le commandement des offrandes et de la générosité, on veille à préserver la liberté du don. On veille à préserver la motivation de la reconnaissance. Et je voulais un petit texte ici, tout simplement magnifique, du livre du Deutéronome, qui invite, qui dit aux croyants, voilà la façon dont tu vas venir au temple pour apporter au Seigneur les prémices, la première partie de tes récoltes. Deutéronome 26, versets 1 à 11. C'est dit à Israël juste avant qu'il entre dans le pays promis, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et que tu y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel te donne. Et tu prendras donc cette première part de ces fruits et tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. » Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras alors la parole encore et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu « Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens. » Il y fixa son séjour, et là il devint une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent, ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre voix. Il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur et des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu. Il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel. Maintenant donc, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu déposeras ces prémices devant l'Éternel ton Dieu. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. C'est magnifique ce texte. Mais c'est difficile de mieux dire le lien, de mieux lier une obligation et une liberté. Au moment de donner, on rappelle tout ce qu'on a reçu. On se souvient devant Dieu de toute la trajectoire qui permet d'être là aujourd'hui. On remonte à loin, on remonte à Abraham qui était nomade, on remonte à tout ce qui s'est passé. On rappelle que tout est grâce, que tout est don. On parle même du sol que tu m'as donné. Maintenant, si je peux cultiver, c'est que tu m'as donné une terre. et on adore le Seigneur, source de tous ses biens, et on lui donne les prémices, la première partie, parce qu'on veut qu'il soit le premier servi. Et c'est ainsi qu'on se réjouit pour soi et avec les autres. Et vous voyez, de cette façon, on se rend compte que le commandement de Dieu qui dit « oui, tu donneras » veut préserver la liberté et la joie et l'authenticité du don et le geste pleinement motivé et le geste pleinement habité. L'aspect commandement donc de la générosité que l'on trouve dans la loi de Dieu est là, oui, pour contrecarrer certaines petitesses de nos égoïsmes. Mais la liberté entre dans ce cadre pour avoir une démarche qui est motivée, elle, par la reconnaissance. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer commandement et liberté. Le Nouveau Testament, on le sait, ne nous parle plus de dîme et souligne beaucoup plus la libre motivation. Tu donneras vraiment en fonction de la reconnaissance que tu as envers Dieu. Mais je crois qu'il nous appartient à nous de veiller à ce que notre libre motivation ne permette pas un retour en force de l'égoïsme et que notre libre motivation ne masque pas l'indigence de notre générosité. Et c'est pour ça que personnellement, je pense qu'il est juste que nous veillions, même dans le Nouveau Testament, d'être au moins au niveau qui était demandé dans l'Ancien Testament, d'être au moins à ce niveau-là, et que nous choisissions une vraie discipline, une vraie régularité pour notre générosité envers Dieu, mais que nous habitions cela par des motivations fortes de reconnaissance, comme l'Israélite était invité à le faire. Donc, premièrement, la générosité donc, a un cadre, oui, mais ce cadre est donné parce que les tendances de notre égoïsme, égocentrisme, sont quand même assez fortes. Mais une fois qu'on a donné cela, c'est pour la liberté. Et c'est là où j'aimerais signer le deuxième point, c'est que la générosité est appelée à être une réponse en ce qui nous concerne. La Bible préserve la générosité comme réponse à tout ce que nous avons reçu. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, pour que, par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est sur cette base que Paul invite les chrétiens de Corinthe à la générosité. Et il veut cette générosité pleinement motivée par le sentiment de tout ce qu'ils ont reçu, par ce que le Christ a fait pour eux, par la générosité du Christ venu vers nous. Il veut préserver la motivation du choix de donner, il motive donc et il n'impose pas. Et c'est quelque chose que l'on trouve assez fréquemment de dire, voilà, c'était en étant conscient de ce que Dieu a fait pour nous qu'on va vouloir être plus généreux et toujours plus généreux. C'est une expérience que l'on fait. Psaume 116, versets 12 à 14. Mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai, dit le psalmiste, la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom du Seigneur. J'accomplirai mes vœux en présence envers l'Éternel, en présence de tout le peuple. Comment rendrai-je au Seigneur ce qu'il a fait pour moi? C'est un croyant qui dit cela, mais c'est vraiment la conscience de ce que Dieu a fait pour nous qui porte justement à s'offrir. Et donc c'est dans ce sens-là qu'on va motiver cette générosité. Et Paul invite à cultiver ce sens des compassions de Dieu envers nous pour les traduire justement en dons, pour les traduire en générosité. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à cause de toutes les compassions dont vous êtes conscients que Dieu a eu pour vous, je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Je lis un autre texte dans ce même registre de la générosité comme reconnaissance finalement. Il est adressé aux riches et il invite le riche à la générosité. Mais c'est intéressant la formulation qui est employée. 1 Timothée 6, versets 17 et 18. Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. C'est intéressant son texte, il parle des riches, mais Paul rappelle d'abord que c'est Dieu et Dieu seul qui est source de tout bien. et source de ce qui demeure. Il dit, c'est pour ça, vous qui êtes riches, qui avez des biens, ce n'est pas dans vos richesses que vous devez vous confier, mais dans le Seigneur. Nous sommes dépendants de Dieu, même si nous possédons. Et nous savons qu'on peut posséder beaucoup, mais il suffit d'un pépin de santé, il suffit d'un accident pour que tout cela ne compte plus beaucoup. Une fois que Paul a dit, oui, voyez ce qui fait les sources réelles de notre vie, il souligne ensuite qu'il est légitime de jouir de ce que Dieu nous donne. Il dit, les dons de Dieu sont vraiment une générosité, pas un moyen de nous acheter. Il dit, recommande d'être riche, aux riches de mettre leur espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et celui qui possède, le riche, doit savoir que, oui, Dieu lui a fait du bien, c'est une générosité qui est pour lui, et une vraie générosité. Si Dieu donne en abondance, c'est pour que tu puisses, oui, jouir de ce que Dieu te donne, et le faire simplement, et le faire en toute reconnaissance. Et ensuite seulement, le riche est invité à la générosité. Mais avec un langage qui dit une juste correspondance à établir. Il dit, recommande à ceux qui sont riches d'être aussi riches en bonnes œuvres et en générosité. Autrement dit, la correspondance dit la motivation. C'est parce que je mesure tout ce que j'ai reçu que je veux aussi donner. Et il y a ce lien qui est fait. Et il me semble que cet état d'esprit, il nous faut le cultiver, y veiller. Ne jamais nous habituer à ce que nous avons. Ne jamais nous habituer aux richesses qui sont les nôtres, à ce que nous recevons, mais vraiment bien avoir conscience que ce que nous avons, c'est un cadeau. Faire confiance à celui qui nous donne ce que nous avons, plutôt que de faire confiance aux richesses elles-mêmes, et cultiver pleinement un sens de la reconnaissance. Petite parenthèse, ce qui me semble assez étonnant, c'est que souvent, la générosité est très forte chez les gens qui n'ont pas beaucoup. Et parfois même plus forte chez les gens qui n'ont pas beaucoup que chez certains qui ont beaucoup. Je ne veux pas faire de générosité, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Je crois que les gens qui n'ont pas beaucoup, souvent, ils savent ce que ça veut dire être dans le besoin. Et parce qu'ils savent ce que veut dire être dans le besoin, ils sont très sensibles à ceux qui sont aussi dans le besoin. Mais c'est un peu un paradoxe. Que souvent des gens qui ont peu sont très généreux et que des gens qui ont beaucoup se crispent un petit peu sur ce qu'ils ont. Et c'est peut-être parce qu'on n'apprend pas suffisamment à mesurer que ce que l'on a est un don, et c'est un don aussi qui parle d'une vraie fidélité de Dieu pour nous. Et donc, cultivons le sens profond de ce que nous avons. Troisièmement, donc après la générosité comme commandement, la générosité comme libre don, la générosité comme équité et comme possibilité. Lorsque Paul invite les chrétiens de Corinthe à la solidarité avec ceux de Jérusalem, il parle d'une règle d'équité. Et il leur dit, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais, dit-il, de suivre une règle d'égalité ou d'équité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu puisse également pourvoir au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité selon qu'il est écrit. Celui qui avait amassé beaucoup n'avait rien de trop, celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Ici, on a une autre motivation, une motivation supplémentaire à la générosité. Elle peut prendre sa place dans une règle d'équité. Alors, Paul n'impose pas cette règle d'équité. Il ne dit pas, écoutez, égalitarisme parfait, total entre tous, nivellement de tous au même niveau. Ce n'est pas du tout ça ce qu'il dit. Il invite à donner pour qu'il y ait une règle d'équité. Mais il souligne en tout cas que la générosité peut contribuer à cette équité, peut contribuer à cette justice. Et du coup, il invite à faire une distinction qui est importante, et qui contraint, c'est de faire la différence entre ce qui est absolument nécessaire pour vivre et ce qui est superflu, ce qui est en plus. Et Paul dit, il ne s'agira pas de vous priver du nécessaire, ce n'est pas du tout cela qui est demandé par la générosité, Mais il ne s'agira pas de vous exposer à la détresse pour être généreux. Ce qui veut dire que nous avons le droit de nous préserver. Mais en même temps, dit Paul, il est bon de considérer l'échelle des choses et de dire, vous avez le nécessaire et vous avez aussi ce superflu qui est d'une certaine façon la marque de la surabondance de Dieu pour vous. Et il est important de reconnaître ce superflu comme faisant partie des dons de Dieu, de la générosité dont nous sommes l'objet, comme un cadeau auquel nous n'avons pas forcément à nous cramponner à tout prix. Mais ce superflu, ce supplément que Dieu nous donne, peut devenir pour nous une sorte de réservoir de générosité. Et Paul invite donc à faire cette distinction entre le nécessaire et le superflu, et à dire, bah écoutez, votre superflu, ce qui est plus que le nécessaire, ça peut devenir un vrai réservoir de générosité. Et il nous invite à garder une certaine liberté intérieure, hein, à l'égard de ce que nous avons, en disant, je peux en jouir, mais je peux aussi le donner. Hein. Et la distinction entre le nécessaire et le superflu a cette fonction d'ouverture. Il me semble qu'il est important pour nous aussi de savoir faire la différence entre ce dont nous avons vraiment besoin et puis ce qui nous vient en plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'esprit dans lequel Paul développe cette distinction entre le nécessaire et le superflu. Aujourd'hui, beaucoup jouent pour solliciter la générosité, beaucoup jouent sur la corde de la mauvaise conscience. Hein? Comment est-ce qu'on veut susciter la générosité? C'est souvent en donnant mauvaise conscience. Et ceux qui parfois nous sollicitent savent aussi le faire. Hein, vous avez vu des gens qui, par exemple, s'installent pour demander l'aumône juste à côté d'un distributeur automatique de billets. C'est choisi de leur part. Et c'est une façon de vous donner juste mauvaise conscience. De dire, tu tires tes billets pour toi et tu ne me donnes rien. Ouais, ça, c'est vraiment jouer sur la mauvaise conscience. C'est un choix qu'ils font exactement de se mettre à cet endroit-là. Et il arrive qu'on voit la générosité que sous cet angle de la mauvaise conscience. Et ce n'est pas très agréable, la générosité comme mauvaise conscience. Paul, me semble-t-il, nous invite à faire la distinction d'une autre façon. Et cette distinction entre le nécessaire et le superflu, elle est intéressante. Et elle nous dit, Dieu vous donne plus que le nécessaire. Il vous donne plus que le nécessaire, reconnaissez-le. Et cela doit nous conduire non pas à dire, je dois être généreux, mais ça doit nous conduire à dire, je peux être généreux. Je peux être généreux parce que je reconnais que Dieu me donne le nécessaire et qu'en plus du nécessaire, il y a de la générosité reçue, du superflu. Et je crois que c'est intéressant de voir cette ligne-là. Paul nous invite à considérer non pas que nous devons être généreux parce que nous aurions trop, mais que nous pouvons être généreux parce que Dieu nous a fait du bien. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Paul dit, voilà, Dieu va vous donner tout ce que vous avez besoin pour que vous puissiez être généreux. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'important pour nous de vraiment prendre en compte. Qu'apporte ce regard sur le fait que Dieu est bon pour nous, qu'il nous donne beaucoup de grâce et de superflu? C'est la joie de dire, oui, je peux être généreux. Comme disait l'autre, yes, we can. Ça, c'est la perspective que Paul nous donne par rapport à la générosité. Et ça change quand même les choses de dire, Seigneur, tu m'as donné beaucoup, je peux être généreux, je ne vais pas me mettre en danger, je peux le faire, tu veilleras sur moi, je le fais avec joie. Ça, je vous invite à méditer cela, parce que je trouve que c'est quand même une belle trouvaille de l'apôtre Paul que de faire cette distinction entre le nécessaire et le superflu qui nous permet de dire oui, yes, we can, on peut être généreux. Et c'est ainsi, quatrièmement, que Paul nous invite à avoir un autre regard sur la générosité, c'est la générosité comme dynamique, la générosité comme une dynamique. Paul invite à considérer toute la dynamique possible lorsque la générosité s'enclenche. Il dit, c'est beau de voir cela. Et il compare ça à des semailles qui vont produire une moisson. Et il nous invite à considérer tout ce qui s'enclenche à partir d'une générosité. Hein, il dit, voilà, celui qui sèmera peu, moissonnera peu, mais celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Et c'est avec ça qu'il encourage les chrétiens à la générosité. D'abord, l'image des semailles. Être généreux, ce n'est pas devoir donner, c'est semer quelque chose. Semer, c'est un acte positif. C'est un acte d'espérance. C'est un acte qui va dans le sens de la vie. Alors, c'est sûr que quand on sème, on se sépare d'une partie de ce qu'on a. Hein, l'agriculteur, il y a une part de la semence, des grains qu'il a, qu'il ne va pas manger pour lui, il va les garder pour les semer. Donc, on se sépare de ça. Mais on se sépare de cela sans être, oui, toujours forcé, certain du résultat, mais parce que l'on vise autre chose et parce qu'on a en perspective ce que cela peut produire. Et on le fait avec joie parce qu'on a en vue tout ce que cela peut donner. Et Paul nous dit, la générosité, faites-la dans cet état d'esprit, des semailles qui vont pouvoir produire quelque chose. Et Paul invite celui qui est généreux à avoir la confiance du semeur. La confiance du semeur, c'est que ce qu'il fait va pouvoir produire un fruit, mais aussi que ça lui fournira de la semence pour la suite. Et il dit, Dieu veille à donner au semeur la semence dont il aura besoin et le pain pour sa nourriture. Et il dit, c'est aussi là-dessus qu'on peut compter pour la générosité. Si tu en es généreux, si on fait des semailles de générosité, Dieu veillera à pourvoir aussi à notre besoin, à nos besoins, de telle sorte qu'on ait encore des possibilités pour d'autres dons. Et nous invite donc à voir notre générosité à l'intérieur de la générosité de Dieu, à l'intérieur de la fidélité de Dieu. Dieu continuera à veiller sur vous si vous êtes généreux. Ayez confiance en lui. Et fort de cette confiance, faites ces semailles. Et puis Paul souligne ensuite que la générosité n'appauvrit pas, mais qu'elle enrichit. La générosité n'appauvrit pas, mais elle enrichit. Vous serez enrichis à tous égards par votre générosité. C'est ce qu'il dit au chapitre 9 de 2 Corinthiens et au verset 11. Vous serez enrichis par la générosité. Qu'est-ce que c'est que l'enrichissement de la générosité? C'est la joie qu'apporte une vie d'ouverture, c'est le sens qu'apporte une vie d'ouverture. C'est l'aération intérieure qu'apporte la générosité. C'est les relations qu'elle permet, la générosité. C'est les bienfaits qu'on constate, qu'on peut partager avec d'autres qui rejaillissent largement. En quelque sorte, s'il faut dire quel est l'enrichissement de la générosité, c'est la différence qu'il y a entre une maison aux volets fermés et une maison aux fenêtres ouvertes. On a tout dit, quand une maison aux volets fermés, c'est tout noir à l'intérieur, etc. Dès qu'on ouvre les fenêtres, il y a toutes sortes de choses, du soleil, de la lumière, tout est différent. Et c'est cela, vous serez enrichis à tous égards par votre générosité. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit l'apôtre Paul aussi en acte 20, verset 35, en citant une parole de Jésus. Et c'est vrai, c'est une constatation que tout le monde fait. On est plus heureux dans le don que dans le repli sur soi. On est plus heureux dans le don que dans le repli sur soi. C'est vrai de toutes les formes de générosité. La générosité qui donne une part de ses biens, mais aussi la générosité qui donne du temps peut-être, qui donne son attention à l'autre, qui donne sa réflexion, ses compétences pour l'autre. Dès qu'on entre dans ce genre de relation, dès qu'on ouvre les fenêtres de la générosité, c'est un vrai soleil qui rentre. Et Paul nous précise, celui qui sème peu, moissonnera peu. Il nous faut écouter le témoignage de ceux qui peuvent parler de la joie des moissons. C'est une joie de donner en soi, et puis c'est la joie de partager ensuite solidairement une situation, d'être aux côtés de quelqu'un d'autre dans un moment difficile, la joie de voir ensuite, de partager les récoltes, les fruits, les délivrances, les aboutissements, les victoires. La générosité n'appauvrit pas, elle enrichit. Et Paul invite aussi à voir, là ça c'est pour celui qui lui-même est généreux, Paul nous invite à voir aussi l'effet de la génération de la générosité sur ceux qui en bénéficient. Et il dit, ben, vous allez pourvoir à leurs besoins, ça leur fera du bien. Acte 9, donc 2 Corinthiens 9, verset 12. Mais il dit, ce que vous allez faire, ça va aussi produire toute une reconnaissance qui va monter à Dieu. Ça fera monter beaucoup d'actions de grâce. Et ça va créer tout un élan de solidarité dans l'autre sens. Ceux qui ont reçu de vous voudront aussi faire quelque chose pour vous et ils vont au moins prier pour vous. Et ils vont peut-être faire d'autres choses s'ils le peuvent ensuite. Et Paul veille vraiment à montrer combien finalement la générosité, elle enclenche toutes sortes de choses, toutes sortes de réactions, toutes sortes de dynamiques. Et je crois qu'il est bon pour nous aussi de toujours penser à cela, de bien noter ces choses-là. Et ici, il faut être bien lucide et bien analyser les choses. Quels sont les fruits de l'égoïsme? Quels sont les fruits d'une vie centrée sur soi? Et quels sont les fruits de la générosité d'une vie centrée sur les autres? Je crois qu'on sait que le contraste est total. Hein. Bien des personnes possèdent en abondance, matériellement parlant, mais parce qu'il n'y a pas de générosité, ben, se retrouvent seules avec ce qu'elles ont, n'ont pas d'amis, pas de relations. Personne pour qui elles s'investissent, personne... pour qui il compte. Et voilà des gens qui ont beaucoup, mais qui sont pauvres relationnellement. Pauvres de ce qui compte le plus dans une vie. La générosité, elle, au contraire, nous rend riches de relations, nous permet vraiment d'avoir une dynamique beaucoup plus positive. Et Paul vraiment veut nous encourager à cela, et c'est pourquoi il dit, « Celui qui sème peu moissonnera peu, mais celui qui sème en abondance moissonnera en abondance, et il met devant nous ces dynamiques de la générosité. Alors, ce n'est pas toujours non plus dynamique assurée. Hein. L'Ecclésiaste nous dit que parfois, quand on sème quelque chose, on ne sait pas si ça va aboutir. Hein. Et c'est vrai que parfois, toutes nos générosités n'aboutissent pas de la façon dont on imagine, qu'on imagine. Mais globalement, il faut reconnaître qu'il y a de vrais fruits, de vraies dynamiques de la générosité. Alors, je termine par une dernière pensée en guise de conclusion, et elle ne sera pas de moi, je vais vous lire juste les dernières lignes du chapitre d'André Comte-Sonville sur la générosité. J'ai trouvé que c'était très très beau, et ça fait une belle manière de finir tout cela. Voilà ce qu'il dit sur la générosité pour terminer. Il dit « La générosité nous élève vers les autres, pourrait-on dire, et vers nous-mêmes en tant que libérés de notre petit moi. » Celui qui ne serait pas du tout généreux, la langue nous avertit qu'il serait bas, lâche, mesquin, vil, avare, cupide, égoïste, sordide. Et nous le sommes tous, mais toutefois pas toujours, ni complètement. La générosité est ce qui nous en sépare ou parfois nous en libère. Remarquons, dit-il, pour finir, que la générosité, comme toutes les vertus, est plurielle dans son contenu, comme dans les noms qu'on lui prête ou qui servent à la désigner. Jointe au courage, la générosité peut être héroïsme. Jointe à la justice, elle se fait équité. Nous retrouvons ce que nous avons dit. Jointe à la compassion, elle devient bienveillance. Jointe à la miséricorde, la voilà indulgence. Mais son plus beau nom est son secret que chacun connaît. Jointe à la douceur, elle s'appelle la bonté. C'est beau ça, hein? C'est beau. Alors je m'arrête sur cette belle pensée. Merci de votre attention.